Soyez les bienvenus sur France Inter, 7h30. Et le journal de Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, remettre les homosexuels dans le droit chemin, c'est ce qu'on appelle les thérapies de conversion. Ces dérives vont-elles devenir illégales en France? Les députés s'emparent du sujet cette semaine et envisagent de les interdire. La forte progression de l'extrême droite dans l'est de l'Allemagne, l'AFD double ses scores au régional, mais rate son objectif d'arriver en tête. Nous serons sur place dans ce journal. Dans ce journal également, la rentrée des classes pour des millions d'élèves. C'est ce matin témoignage d'une famille à suivre. La forte augmentation du salaire des cadres en 2019 grâce au numérique. Et puis un mot de sport pour terminer avec l'abandon surprise de Novak Djokovic à l'US Open ce matin, victime de son épaule gauche.
Invité de Léa Salamé à 7h50 aujourd'hui, la pédagogue Céline Alvarez. Elle publie Une année pour tout changer et permettre à l'enfant de se révéler. C'est aux éditions Les Arènes.
France Inter.
Elle promet de débarrasser une personne de son homosexualité. Sébastien, ces thérapies dites de conversion sont dans le viseur des députés français.
Des pratiques également appelées thérapies de réorientation sexuelle, assez répandues aux États-Unis. Difficile toutefois d'en évaluer l'ampleur en France, mais elles existent, on va l'entendre. Ces thérapies sont déjà interdites dans certains pays, sur l'île de Malte, au Brésil, en Chine ou dans certains États américains. En France, la question se pose depuis des années et cette semaine, une mission parlementaire ouvre donc le débat avec des auditions d'associations de religieux à l'Assemblée, car au-delà d'une démarche déjà très douteuse, ces méthodes parfois peuvent être violentes, Julie Pietri.
C'était à Lille l'an dernier. Le pasteur d'une église évangélique se lance en public dans ce qu'il appelle une délivrance.
Il ne restera rien de l'homosexualité dans ce corps.
Si Manu n'était pas présent ce jour-là, cet homme homosexuel a vécu une expérience similaire lors d'un séminaire à Dunkerque en février dernier, qui a commencé par un long jeûne.
Pour moi, ça a été 6 jours. Au bout de 6 jours de jeûne, le 7e jour était consacré donc à tout ce qui était délivrance. Et ça se fait vraiment en hurlant, avec la fatigue, avec l'émotion, avec la musique, avec plein de choses. Forcément, avec imposition des mains, on se retrouve bien souvent par terre. Personnellement, moi, j'ai été jusqu'au vomissement, en fait.
Thierry Le Gall, du Conseil national des évangéliques de France, dénonce ces pratiques qui ressemblent plus, dit-il, à des dérives sectaires. Mais s'il rejette toute forme de violence ou de pression, la religion a, selon lui, par les prières, par les discussions, un rôle à jouer.
Si cette personne nous demande de l'accompagner vers un mode de vie qui serait plus compatible avec les enseignements bibliques dans lesquels elle croit, elle peut choisir la chasteté, elle peut, si elle le souhaite, revenir à l'hétérosexualité.
Une approche qui ne convainc pas la députée Laurence Vansenebrock-Mialon en pointe sur le sujet.
Finalement, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas une thérapie, mais c'est malgré tout une incitation à ne pas s'accepter.
Elle espère déposer une proposition de loi début 2020.
Cette proposition de loi prévoit de punir de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende toute pratique qui altère la santé physique ou mentale, sujet de Julie Pietri, à retrouver en longueur sur franceinter.fr.
Direction l'Allemagne, Sébastien, 7h33. L'Allemagne où l'extrême droite a fait un carton hier aux élections régionales.
Très forte poussée en Saxe et Brandebourg, 2 bastions du parti de l'AFD en Allemagne de l'Est. On part tout de suite donc pour Dresde, la capitale de la Saxe où nous attend notre correspondant Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Une percée importante, Ludovic, certes, mais insuffisante malgré tout pour que l'extrême droite puisse ravir le pouvoir aux conservateurs et aux sociodémocrates.
Ouais, un électeur sur 4 hein, tout de même a voté pour l'AFD, 23,5% dans le Brandebourg, c'est un gain de 11 points en 5 ans. Les sociodémocrates sortants sont réélus, c'est vrai, mais d'un cheveu, puisque l'AFD n'est que 2,5 points derrière. En Saxe, région beaucoup plus conservatrice où je me trouve, la CDU conserve la première place avec 5 points d'avance sur le jeune parti alternatif pour l'Allemagne, qui termine avec un score record de 27,8% et une progression considérable de 18 points en 5 ans entre 2 élections régionales à relativiser un peu. C'est seulement un tout petit point de plus pour l'AFD dans cette région de Saxe par rapport aux législatives d'il y a 2 ans quand ils avaient fait leur entrée au Bundestag.
Progression très forte hein, donc de l'extrême droite. Qu'en dit la presse allemande ce matin, Ludovic ?
Alors, il y a celle majoritaire hein, ce matin qui voit le verre à moitié plein et semble se moquer de ceux qui prédisaient avant ce scrutin, je cite, l'apocalypse où je vous lis encore la fin de la démocratie, comprenez une victoire de l'extrême droite. Le résultat de ces élections, ben c'est le statu quo, à ceci près que les coalitions seront plus difficiles à trouver. Il est possible que les Verts fassent leur entrée dans les deux gouvernements de ces régions, mais les discussions s'annoncent compliquées et c'est en soi une conséquence du score élevé de l'extrême droite et d'un paysage politique allemand de plus en plus fragmenté. Une autre partie de la presse trouve ces résultats records de l'AfD très inquiétants, surtout quand ce parti réussit l'exploit de faire voter les traditionnels abstentionnistes. Tout peut changer en un matin, explique un autre quotidien qui ce matin salue et remercie les femmes qui sont celles qui ont le moins voté en faveur de l'extrême droite.
Ludovic Piétenu, merci, correspondant de France Inter en Allemagne, en direct de Dresde. En bref, encore à l'étranger, la ville de Hong Kong très perturbée depuis ce matin. Des trains, des aéroports, des routes bloquées par des étudiants pro-démocratie qui appellent à la grève générale. En revanche, au Moyen-Orient, la tension semble pour le moment redescendre entre le Liban et Israël. Toute la journée d'hier, les deux pays en guerre depuis 1967 ont échangé des tirs. Tirs de missiles anti-chars du Hezbollah libanais contre roquettes israéliennes. Pas de victimes à déplorer. Les États-Unis enfin qui attendent avec inquiétude l'arrivée possible ce soir d'un des plus gros ouragans de l'histoire du pays. Dorian menace désormais la Floride et les deux Géorgies. Un ouragan de force 5 sur une échelle de 5 qui a déjà durement frappé les Bahamas. Aucun bilan chiffré pour le moment.
Et on passe à l'actualité en France. Sébastien, la rentrée scolaire pour plus de 12 millions d'élèves.
Écoliers, collégiens, lycéens, ils vont commencer ce matin une nouvelle année. Et parmi eux, trois sœurs, Annaline, Zoé et Émilie. CE2, grande section, moyenne section, en perspective, trois cartables déjà bouclées. Elles sont prêtes à prendre d'assaut la cour de récréation. Le reportage de Sonia Princé.
Zoé, 5 ans, saute sur le canapé. Elle est impatiente, mais un peu stressée d'aller à l'école.
Je rentre en grande section. J'ai un petit peu peur, parce que je manque papa et maman.
Pourtant, il n'y aura pas de gros changements cette année. La petite fille va retrouver sa maîtresse de l'an dernier.
Mais encore Anne-Laure ? Mais oui. Anne-Laure comme des lards. J'étais en moyenne section avec elle. Ben, on faisait de la pâte à modeler. Quand c'était l'heure d'aller au goûtement, ben, on s'assied sur la ligne verte ou noire.
Mais pour Annaline, sa grande sœur qui rentre en CE2, c'est encore le suspense.
On ne connaît pas encore les copains, les copines et la maîtresse. On ne sait pas dans quelle classe on va être.
Mais Emilia, elle prend tout.
Amandine et Sébastien accompagneront tous les deux leur fille et tentent de ne pas trop leur mettre la pression.
C'est assez calme, c'est serein parce qu'on a bien préparé les choses. Les vêtements sont prêts, les sacs sont prêts.
Moi, j'essaie toujours de faire en sorte d'être là, sachant que la maternelle, c'est super parce qu'on rentre avec elle. Et puis en élémentaire, on est carrément foutu à la porte parce qu'on n'a pas le droit de passer le sas de l'école. Et au collège, je pense qu'on sera même interdit d'approcher à moins de 500 mètres parce que c'est trop la honte, donc on en profite aussi pour ça, quoi.
Alors le mot de la fin aux écolières.
Bonne rentrée à tous.
Bonne rentrée aussi à vous, Nicolas. Sonia Princé, l'attaque à l'arme blanche de ce week-end à Villeurbanne n'a, semble-t-il, à ce stade de l'enquête, rien de terroriste. Le suspect, un réfugié afghan d'une trentaine d'années sans antécédent judiciaire, pas connu pour radicalisation, est considéré comme un psychotique paranoïaque par les experts psychiatres. Cet homme a poignardé aveuglément plusieurs personnes. Un mort, un jeune Savoyard de 79 ans, pardon, et trois autres personnes gravement blessées, dont deux restent ce matin hospitalisées.
7h38, les salaires des cadres, Sébastien, en forte hausse cette année.
Plus 2,4% en 2019, résultat d'une étude menée par le cabinet Randstad, publiée aujourd'hui. Deuxième plus forte hausse depuis 7 ans. Une explication principale, Fabien Cazot, les entreprises s'arrachent les cadres avec de fortes compétences en informatique.
Pour la plupart des cadres, qui dit compétences digitales, dit progression salariale. Plus que jamais, les voilà en position de force pour négocier leur rémunération. Les entreprises s'adaptent en revoyant à la hausse leurs propositions pour fidéliser ou pour attirer à elles les profils à plus forte valeur ajoutée dans le domaine du numérique. François Béharel dirige le cabinet de recrutement Randstad qui a réalisé l'étude.
Moi-même, même si c'est mon métier de recruter, j'ai aussi des difficultés à recruter des informaticiens, des gens qui ont ces compétences pour être chef de produit, pour faire de l'intelligence artificielle, etc. Toutes les entreprises ont besoin de modifier leur business model et de proposer des solutions nouvelles. Et pour ça, il faut des compétences que le pays ne produit pas en quantité suffisante. Donc oui, ça crée un décalage entre l'offre et la demande. Et les cadres seraient très mal avisés de ne pas en profiter pour revaloriser leur salaire.
La tendance se vérifie dans tous les secteurs, en particulier dans le BTP, dans les métiers de la finance et du marketing, des filières dans lesquelles les grands groupes se livrent une concurrence acharnée pour recruter les profils les plus qualifiés. Avec un taux de chômage d'à peine 3,5%, le marché du travail des cadres connaît aujourd'hui une situation de plein emploi.
Fabien Cazot, il y a eu du mieux dans le ciel cet été. Les retards et les annulations de vols au départ ou à l'arrivée de France ont baissé de 48% d'après le baromètre Air Indemnité révélé par nos confrères du Parisien, du mieux à l'exception toutefois d'hier où une panne informatique géante du système de communication a provoqué de grosses perturbations partout en France.
On termine Sébastien avec du tennis et l'abandon cette nuit à New York de Novak Djokovic.
Abandon sur blessure, un coup dur pour le Serbe numéro 1 mondial qui jusqu'ici avait réussi à dompter son épaule douloureuse. Fabrice Abgral.
Novak Djokovic a abandonné alors qu'il était mené 2-7-0 et 2-1 dans la troisième manche. Stan Wawrinka venait de prendre le service du Serbe et au moment du changement de côté, le numéro 1 mondial et tenant du titre blessé à l'épaule gauche a préféré renoncer. Novak Djokovic a tenu 1h46, mais la douleur était devenue trop forte, trop insupportable et suffisamment gênante pour finalement abandonner plutôt que de faire de la figuration et d'aggraver la blessure. Novak Djokovic avait une première alerte au deuxième tour contre l'Argentin Juan Ignacio Londero. Le Serbe avait été manipulé, mais il avait réussi à terminer le match. Il s'était imposé au troisième tour contre l'Américain Denis Kudla sans le moindre problème, précisant même qu'il n'avait ressenti aucune gêne à l'épaule durant le match. Mais aujourd'hui, face à Stan Wawrinka, la douleur s'est réveillée. Novak Djokovic a dû se résoudre à jeter l'éponge. Il sentait bien qu'il ne pourrait plus rivaliser avec le Suisse. C'est un coup d'arrêt pour Djokovic qui, avant l'US Open, avait remporté 4 des 5 derniers tournois du Grand Chelem. Stan Wawrinka, lui, sera opposé en quart de finale au Russe Daniil Medvedev. New York, Fabrice Abgral, France Inter.
Voilà, les autres qualifiés pour les quarts de finale. Homme, le Russe Medvedev, on en a parlé, le Suisse Federer, le Bulgare Dimitrov.
Merci Sébastien Legénie.